Chapitre 2. Peggy Mitchum actionna les roues de son fauteuil de manière à se rapprocher de la fenêtre. Elle était redevenue infirme 6 mois auparavant, à peine revenue de sa première mission. Evgeny et Ijasan avaient décidé de la priver de ses pouvoirs dès qu'elle avait posé le pied sur le sol américain. « N'y vois aucune sanction », lui avait déclaré l'ancien colonel du KGB. « Il s'agit d'une simple précaution. » Ijasan t'expliquera ça en termes très compliqués. Je serai, moi, plus direct. Il n'est pas bon que les nanoparticules demeurent trop longtemps en toi. Elles finiraient par déclencher des processus de mutation très désagréables. Cet effet secondaire du traitement nous a conduits, il y a quelque temps, à nous séparer du meilleur de nos agents. Une femme, soit dit en passant. Elle a connu un véritable calvaire. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Tu vas réintégrer ton vrai corps 6 mois durant. Vis la chose comme une espèce de décontamination. Quand tout danger sera écarté, je viendrai te chercher. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une brimade. En dépit de ses précautions oratoires, Peggy était restée méfiante. C'est bien imaginé, se disait-elle. En me replongeant le nez dans mon infirmité, ils savent qu'au bout de 6 mois, je serai prête à tout pour recommencer à marcher. Avoir tâté du fauteuil roulant réduira à néant mes derniers scrupules. Et s'ils me demandent d'aller en enfer, je dirai oui, pourvu que ce soit sur mes deux jambes. Cela faisait donc une demi-année qu'elle s'ennuyait à mourir dans cette résidence luxueuse que le service avait mis à sa disposition. La villa, nichée dans les collines d'Hollywood, semblait sortie d'un rêve d'un mogol des années 30. Tout avait été aménagé de manière que Peggy puisse aisément passer d'un étage à l'autre. De multiples ascenseurs lui permettaient de contourner l'obstacle des escaliers de marbre à double volée. Des domestiques empressés devançaient le moindre de ses caprices. Un chef français lui mitonnait chaque soir les menus les plus invraisemblables alors qu'elle n'aspirait qu'à grignoter une bonne pizza. Un expert en jardinage transformait le paysage du parc chaque semaine afin de lui donner l'illusion qu'elle avait changé de cadre. Ces divers tours de prestidigitation ne délivraient pas Peggy de l'ennui qui l'accablait chaque jour un peu plus. La nuit, il lui arrivait de s'éveiller en sursaut, soudain persuadée qu'Evgeny ne reviendrait jamais la chercher, que le Destroy avait été dissous et que des agents gouvernementaux se présenteraient bientôt à la grille, mandatés pour la jeter dehors. Elle devait s'estimer heureuse s'ils acceptaient de lui laisser son coûteux fauteuil roulant. Partagée entre ennui et terreur secrète, elle s'était mise à boire. À son âge, et condamnée à l'inactivité comme elle l'était, le « remède » n'avait pas tardé à se traduire par une prise de poids générale et une bouffissure disgracieuse du visage. Si, l'année précédente, il se trouvait encore des gens pour trouver qu'elle ressemblait plus ou moins à Sharon Stone, une telle comparaison ne serait plus venue aujourd'hui à l'esprit de personne. Une quadrale colo, diagnostiquait Peggy chaque fois qu'elle surprenait son reflet dans un miroir. Astrana, il faudra bientôt une grue pour m'extraire de ce fauteuil. » Elle, qui avait été une grande sportive, passait ses journées devant le téléviseur géant du salon, à grignoter des friandises dont la simple vue, jadis, lui aurait donné la nausée. « Une baleine, se répétait-elle, une super baleine qui attend qu'on vienne la chercher pour sauver le monde. Pourquoi aucun dessinateur de BD n'avait-il encore imaginé un super héros obèse ? Elle aurait pu lui servir de modèle. Et puis, plus sournoisement, elle devait s'avouer qu'elle était en manque, comme la première droguée venue. Les prodiges qu'elle avait accomplis sous l'influence des nanoparticules avaient allumé en elle une formidable excitation. Jamais dans le passé elle ne s'était sentie aussi vivante. Tout le temps qu'avait duré sa mission, elle avait eu l'impression de chevaucher un éclair, de tenir la foudre entre ses doigts. Jamais elle n'avait éprouvé un tel sentiment de puissance. Elle avait eu plus d'une fois l'illusion qu'elle n'aurait qu'à tendre le bras pour décrocher la lune et la manger. Quelque chose lui disait que ce pâle satellite avait le même goût que ces crânes en sucre qu'on distribue au Mexique pour la fête des morts. Le retour au réel avait été douloureux. La vie quotidienne lui avait paru d'une fadeur atroce. J'en veux encore, avait-elle fini par s'avouer. Ils m'ont piégé. Ils savaient dès le départ qu'une fois que j'aurais goûté au gâteau, je me traînerais à leurs pieds pour en avoir une deuxième part. La toute-puissance engendrait de terribles addictions, et elle aurait été prête à courir le risque d'être changée en monstre, pourvu qu'on lui administre sa dose de nanoparticules sans plus tarder. Elle en était là de ses réflexions quand Evgeny se présenta à la grille du parc. Il conduisait avec ostentation une vieille berline Zil diplomate importée de Russie. Un monstre noir, dont les vitres latérales étaient encore équipées de rideaux opaques à hauteur de la banquette arrière. De temps à autre, il optait pour une trabane ou une tatras tchèque. Sans doute, par cette provocation puérile, prenait-il un extrême plaisir à faire la nique aux agents gouvernementaux qui surveillaient le moindre de ses déplacements. Quand il descendit du véhicule, Peggy put voir qu'il s'obstinait encore à porter les costumes croisés, rendus jadis célèbres par les maîtres du Politburo. Ainsi déguisé, il avait l'air empaqueté dans un vêtement fabriqué au moyen de papier peint recyclé. On s'attendait à voir son pantalon se déchirer à la hauteur des genoux à chaque pas. Ses yeux bleus faisaient deux taches incongrues sur son visage émacié couronné d'une brosse de cheveux blancs. Il avait exactement l'air de ce qu'il était, un dinosaure d'un autre temps. Mais un dinosaure sanguinaire qui possédait encore toutes ses dents. « Oh, Douchka, petite colombe » lança-t-il en gravissant les marches menant à la terrasse. « Comme tu es vilaine, tu as grossi. On dirait une matrioshka géante. Bouffie, bouffie. Décidément, les vacances ne te valent rien. » Il exagérait à plaisir son accent slave, roulant les airs comme un acteur hollywoodien du temps de la guerre froide. Il aimait se donner l'air d'une caricature, d'un vieux clown pitoyable, d'un pauvre émigré tirant le diable par la queue. Mais Peggy savait qu'il n'en était rien. Sous le déguisement se dissimulait une créature impitoyable, dont le pouvoir de nuisance défiait l'imagination. Saisissant les poignées du fauteuil roulant, il poussa la jeune femme dans le salon. Là, il ouvrit son attaché-caisse cabossé, en tira un brouilleur électronique qu'il enclencha avant de le déposer sur la table basse. Désormais, aucun système d'écoute ne pouvait plus enregistrer les paroles qui seraient prononcées dans cet espace clos. « Je viens te chercher, » dit-il en se servant un grand verre de vodka polonaise au bar. « Les vacances sont finies. Nous avons besoin de toi. Je ne suis pas au mieux de ma forme physique, » objecta Peggy. Le vieillard haussa les épaules. Les nanoparticules auront vite fait de te remettre sur pied, grogna-t-il. Elles brûleront les graisses superflues en l'espace d'une nuit. Quand tu te réveilleras, tu auras 20 ans de moins. Peggy s'appliqua à masquer l'excitation qui s'emparait d'elle. Nous avons un problème, soupira Evgeny. Il y a 3 jours, une jeune femme est tombée du ciel au beau milieu de la piscine de l'hôtel Ichiban Excelsior à Tokyo. Elle a pulvérisé le dôme avant de s'encastrer au fond du bassin, ouvrant une brèche dans le béton du toit. Le contenu de la piscine s'est engouffré dans ce trou pour inonder les étages inférieurs. L'ennui, c'est qu'au terme de ce tour de force, la fille en question était encore vivante. « Si c'était l'un de vos agents, ça n'a rien d'étonnant, » fit observer Peggy. « Les nanoparticules l'ont protégée de l'impact, voilà tout. » « C'est bien là que réside le problème, » grogna Evgeny. « Cette fille n'appartient pas au Destroy. » Ijasan l'a examinée. Son organisme ne présente aucune trace d'une injection de nanoparticules. Elle semble étrangement résistante, rebelle à la mort. « Elle a parlé ?»« Non. Elle n'a plus un os entier dans le corps. Ce n'est qu'un sac. Un sac de peau rempli d'une tripaille en vrac. » La plupart de ses organes ont éclaté, mais elle s'obstine à vivre. Elle n'est pas capable de guérir. Son état ne s'améliore ni n'empire. Ijasan passe ses nuits à son chevet dans l'espoir de percer ses secrets, mais il commence à s'arracher les cheveux. « Vous avez dit qu'elle était tombée du ciel, d'un avion ?» On l'a cru tout d'abord, mais Ija a relevé des traces de brûlures sur son épiderme. Des traces résultant du frottement de l'air comme ils sont produits sur les parois des capsules spatiales lors de leur rentrée dans notre atmosphère. Peggy retint son souffle. Cela voudrait dire, haleta-t-elle, qu'elle venait de plus haut, de beaucoup plus haut, oui. Peut-être a-t-elle été éjectée d'une navette spatiale, bougonna le vieil homme. Mais si c'était le cas, elle aurait dû mourir dans les 3 secondes. De plus, elle était nue à son arrivée sur la Terre. Ses vêtements ont été consumés par la chaleur du frottement, mais on a pu en récupérer des fibres. Elle provenait d'étoffes ordinaires, pas d'un scaphandre de cosmonaute. Cette fille est une énigme vivante. Et tout cela n'explique pas pourquoi elle s'obstine à vivre. Nous devons découvrir ce qui se cache derrière cette aberration. Tu vas venir avec moi, tu subiras les injections dès notre arrivée. Il avait à peine fini de parler qu'une camionnette noire franchit le portail pour se garer devant la maison. 2 hommes en costume foncé et lunettes à verre miroir en jaillir ouvrirent la porte latérale et s'empressèrent de disposer les glissières qui allaient leur permettre de hisser le fauteuil de Peggy à l'intérieur du véhicule. La jeune femme retint un soupir de soulagement. Ainsi la longue attente prenait fin. Elle se moquait bien de risquer sa vie. Tout valait mieux que l'ennui et la déliquescence au sein de laquelle elle s'abîmait chaque jour un peu plus. La perspective de recouvrer un corps neuf, jeune, la galvanisait. Demain matin, lorsqu'elle s'éveillerait, son premier réflexe serait de courir vers le miroir pour examiner son reflet. Elle savait qu'elle aurait l'impression de contempler une inconnue, une fille qu'elle avait perdue de vue depuis 20 ans. Elle-même, lorsqu'elle était encore en pleine possession de ses moyens et de ses illusions. Il ne fut pas question de bagages. Les garçons en complet noir entrèrent dans la maison et, sans même un signe de tête, empoignèrent le fauteuil pour le porter à l'extérieur. Ainsi véhiculée, Peggy se faisait l'effet d'une idole qu'on arrache à son temple. Une idole monstrueuse qu'on allait bientôt supplier de descendre de son piédestal pour marcher parmi les simples mortels. Elle trouva cela excitant. Evgeny n'ouvrait plus la bouche pendant tout le reste du voyage. Dès qu'ils furent installés à bord du Learjet, il s'enfonça dans son siège, tira de sa mallette un journal soviétique datant des années 50 et entreprit de le lire de la première à la dernière ligne. Peggy ferma les yeux. Quand l'hôtesse s'approcha pour lui proposer à boire, elle refusa d'un signe de tête. Comme par miracle, la soif inextinguible qui l'avait torturée ces 6 derniers mois venait de disparaître. Le Learjet se posa sur un aéroport privé à la périphérie de LA à la nuit tombée. Une camionnette blindée les attendait sur le tarmac, escortée par 2 Humvees militaires. Le transbordement s'effectua avec célérité, sous la protection de 10 gardes armés et cagoulés. Le cortège fila en silence à travers Culver City, Jefferson City, un univers de maisons d'un seul étage aux façades tristes, aux jardiniers encombrés de corvettes aux d'impalas cabossés, squelettes d'un autre âge que leurs propriétaires s'épuisaient vainement à restaurer. 2 heures plus tard, quand Peggy émergea du véhicule, elle se trouvait dans un hangar bétonné aux allures d'abri anti-atomique. « Me voilà de retour à la maison », songea-t-elle en étouffant un ricanement désabusé. « Oui, de retour au chenil, chez les monstres du département Y. » Mais pourquoi aurait-elle fait la fine bouche, puisque c'était là sa place, désormais ?« Ne perdons pas de temps, grogna Evgeny, le docteur nous attend. » Et, empoignant le fauteuil de la jeune femme, il se mit en devoir de la propulser à travers les corridors immaculés du secteur de recherche. Au bout du labyrinthe, un très vieux japonais les attendait, laissant transparaître son impatience. On l'appelait Ijasan ou l'honorable docteur. Il s'agissait bien évidemment d'un sobriquet. Personne ne connaissait sa véritable identité. Ija sut sauter un fume-cigarette d'ambre clair qui lui donnait l'allure d'un officier de la Kampetai dans un film de propagande américaine tourné pendant la guerre du Pacifique. Il était maigre, sans âge, nanti de 2 mains aux doigts grêles, interminables. Une momie vivante, dont toute la famille avait été tuée lors du bombardement d'Hiroshima. Seul survivant, Il avait passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, au milieu des blessés dévorés par les radiations. Il s'était promis de trouver, un jour, le moyen de remédier aux pires atteintes corporelles. Son circuit sanguin charriait des milliards de nanoparticules qui, à chaque seconde, réparaient son organisme défaillant. Sans cette maintenance interne, il serait mort depuis longtemps. C'était du moins la légende en vigueur dans le service. Est-elle encore en vie? Lui lança Evgeny. Oui, fit le japonais. Les fonctions vitales sont toujours assurées. Ne me demandez pas comment. C'est inexplicable. Il semblait mal à l'aise et de méchante humeur. Peggy comprit qu'il craignait de perdre la face en se montrant incapable de résoudre le problème qui lui était posé. Se détournant des arrivants, Ija poussa une porte blindée derrière laquelle s'ouvrait une chambre de clinique, débordant d'un impressionnant matériel médical de surveillance. Peggy songea qu'elle n'avait jamais vu une telle quantité de moniteurs entassés dans un espace si réduit. Le centre de la pièce était occupé par un lit mobile. En réalité, une plateforme inoxydable montait sur roues. Des cannelures permettaient de recueillir dans des bocaux les fluides corporels s'échappant du corps de la victime. En l'occurrence, le mot « corps » paraissait inapproprié, car l'inconnu qui gisait là n'avait plus rien d'humain. Peggy eut l'illusion de contempler une sorte de poupée gonflable distendue que des plaisantins se seraient amusés à dilater comme un pneu de poids lourd dans l'espoir de la faire éclater. Le plus impressionnant, c'était cette mollesse générale, cette absence d'armature. « Un sac », avait dit Evgeny. L'image était malheureusement exacte. Un sac avec des yeux, une bouche. Les yeux roulaient dans leurs orbites, dévisageant ceux qui venaient d'entrer. La bouche, elle, laissait échapper une plainte continue. « Elle est consciente, estima Peggy, en pleine possession de ses facultés mentales. Si elle ne peut pas parler, c'est parce qu'elle n'a plus de mâchoire. » Evgeny était de toute évidence arrivé aux mêmes conclusions, car il demanda d'un ton sec. Ne pourrait-on pas lui greffer des maxillaires et une langue artificielle? Cela lui permettrait de former des sons intelligibles. Nous pourrions alors l'interroger. Ijasan haussa les épaules. J'y ai pensé, fit-il. Nous pourrions également lui injecter une forte dose de nanoparticules. Il est probable que les nanoéléments réussiraient à la réparer de l'intérieur. Mais il est impossible de savoir à quoi nous serions alors confrontés. Cette femme semble posséder un pouvoir qui nous échappe. Nous pourrions créer un monstre incontrôlable, une créature immortelle. Evgeny sourit. Le romantisme du japonais l'avait toujours amusé. Ijasan vivait dans un monde peuplé de dragons, de samouraïs, où s'affrontaient d'obscurs démons aux noms imprononçables. Un instant, l'ombre de Godzilla plana sur la chambre. Le vieux médecin baissa la tête. Sumimasen, je ne peux pas expliquer pour quelle raison elle est encore en vie, souffla-t-il en s'inclinant. Je crois savoir qui c'est et d'où elle vient, fit l'ancien colonel du KGB en s'approchant du lit. Cette tache de naissance, là, sur son épaule droite, je l'ai soumise à l'ordinateur hier soir en lui demandant de scanner les fichiers des personnes disparues. Il a trouvé quelque chose. Quoi ? Haleta le médecin. Rien de palpitant. Il semblerait qu'une fille présentant une macule analogue ait disparu il y a un an à L.A. Elle travaillait comme barmaid dans une discothèque et arrondissait ses fins de mois en faisant du striptease sur Internet. Son appartement était truffé de webcams. Un beau jour, elle s'est évaporée. Les flics en ont déduit qu'elle avait été enlevée par l'un de ses clients. Les webgirls ont souvent ce genre d'ennui. Ijasan fronça les sourcils. « Une serveuse ? » lâcha-t-il, trahissant son désappointement. « Vous voulez dire qu'elle ne travaillait pour aucun service parallèle ?»« Oui, une fille ordinaire. » Le rapport de police mentionne toutefois le témoignage d'une voisine, une vieille alcoolique. Elle a prétendu que notre barmaid avait été enlevée par les extraterrestres. Elle a même donné une description précise des ravisseurs. Et quelle allure avait-il, sentit Peggy. Très grand, très maigre, récita Evgeny, ayant du mal à se mouvoir, traînant les pieds. Elle a bien insisté sur ce point. Ils avaient l'air malades.
Malades?
Oui, tout le contraire de Superman. Estimant en avoir assez dit, le Russe quitta la pièce, Peggy sur les talons. Dès qu'ils furent dans le couloir, il s'empressa d'allumer une de ces horribles cigarettes ukrainiennes munies d'un filtre en carton. « Allons dans mon bureau, ordonna-t-il. Je dois te communiquer un certain nombre de renseignements. Ija s'occupera de toi tout à l'heure, de manière que tu sois en pleine forme dès demain matin. Le temps presse. Une fenêtre va s'ouvrir. Une opportunité dont nous devons profiter. Et que suis-je censé faire ? S'inquiéta la jeune femme. Remplacer la fille que tu viens de rencontrer, répliqua Evgeny Goncharov, en espérant que tu ne finiras pas comme elle. Ils s'installèrent dans le bureau qui empestait le tabac refroidi. Des cendriers débordant de mégots de cohiba traînaient un peu partout. La climatisation réglée au minimum peinait pour établir une atmosphère respirable. On se serait cru dans un sous-marin. Dressé sur un coin de la table de travail, un buste en bronze de Lénine surveillait la pièce d'un œil farouche. Peggy se demanda s'il fallait y voir une intention humoristique. Avec Evgeny, tout était possible. Au mur, protégé par des sous-verts poussiéreux, s'alignaient des décorations militaires prestigieuses. Une étoile d'or des héros de l'Union soviétique, une étoile rouge, l'ordre de Lénine. Avait-elle été décernée à Evgeny lui-même ou bien à son père? Un dossier estampillé d'un cachet en caractère cyrillique reposait sur le sous-main. L'ancien colonel s'assit en gémissant, car les articulations de ses genoux le torturaient. Des feuillets froissés s'entassaient sous un tocaret frouillé faisant office de presse-papier. Saisissant une photographie entre le pouce et l'index, il la brandit sous le nez de Peggy. Le cliché représentait une fille blonde, très saine, d'environ 25 ans, dans le genre surfeuse. Elle souriait au photographe de manière provocante, et le bout de langue, pointé entre ses dents immaculées, faisait de toute évidence office d'un vide sexuel. Récupérée sur son site, expliqua Evgeny. Elle s'appelle Ornella Jones. Rien de particulier à signaler. Ancienne cheerleader et reine de sa promo. Le CV classique de l'apprentie comédienne qui finit call girl. J'ai fait des recherches. Ça n'a pas l'air fabriqué. Il ne s'agit pas d'une couverture. Cette fille n'était pas une taupe, rien qu'une idiote décervelée comme le capitalisme en produit à l'appel. Peggy s'abstint de tout commentaire. Elle scruta le cliché. Le regard de la fille avait quelque chose d'inquiet, de peu assuré, comme si elle craignait que la bombe qu'elle était en train d'amorcer ne lui pète entre les mains. Une belle plante, observa Evgeny. Fille de Moujik, bonne santé, corps parfait. Aurait fait une excellente nageuse olympique. Où voulez-vous en venir, s'impatienta Peggy. À ceci, souffla le vieux Russe. Elle n'est pas la seule dans son cas. Depuis un an, une centaine de filles bâties sur le même modèle ont disparu. Chaque fois, il s'est trouvé un témoin pour évoquer la présence d'hommes grands, maigres, souffreteux, se déplaçant avec difficulté. Certains n'hésitent pas à parler de géants.
Des géants, carrément.
Oui, ça n'a rien de comique. La police n'a pas pris la chose au sérieux. D'autant plus qu'il était question d'individus mesurant plus de 2 mètres et coiffés de chapeaux melons noirs. Quoi ? Je n'invente rien. Les descriptions se recoupent. 3 hommes en manteau et chapeau noir, voûtés, essoufflés, s'appuyant sur un parapluie et qui devaient se baisser pour entrer dans les maisons. De vrais joueurs de basket, avec de très longues mains, de très longs pieds. Je ne fais que citer les déclarations des témoins. Très pâles. Chaque fois, il s'est trouvé quelqu'un pour les surprendre en compagnie de la future disparue. Était-il menaçant ? Non. Il s'adressait à la victime avec beaucoup de prévenance, semble-t-il. De toute manière, il ne paraissait pas en état de lui faire violence. Des malades, hein ? Des insuffisants respiratoires, mal adaptés à la gravité terrestre. Voilà ce que ça m'évoque. J'ai déjà vu des cas semblables en Union soviétique, chez les cosmonautes restés trop longtemps en orbite. Au retour, on aurait dit des asthmatiques, des vieillards. Certains parvenaient à se réacclimater, d'autres pas. Ils mouraient d'embolie pulmonaire. Des cosmonautes, grommela Peggy, décidée à ne s'étonner de rien. Avec le Destroy, tout était possible. L'enquête de police n'a rien donné, poursuivit Evgeny. Les experts ont refusé de prendre en compte ces témoignages fantaisistes. Mais les filles ont continué à disparaître. On a choisi d'en attribuer la responsabilité à un quelconque tueur en série. Que ferait la police américaine sans les tueurs en série? Je vous le demande. Il fit une pause, le temps d'essayer de rallumer un tronçon de Cohiba avec un zippo cabossé, puis reprit. J'ai demandé à nos hackers de fouiller dans le passé bancaire de ces filles. Ils ont chaque fois fini par dénicher un compte numéroté en Suisse où la même grosse somme avait été virée. Je ne pense pas que les tueurs en série aient l'habitude de verser un demi-million de dollars à leurs futures victimes. Ou alors, il faudrait qu'ils appartiennent aux plus riches familles du pays. Ça fait tout de même beaucoup de fils à papa dégénérés, même pour les États-Unis. Un demi-million de dollars multiplié par 100, et cela en l'espace d'un an. Sans compter qu'il s'agissait probablement d'un acompte, fit observer Peggy que l'excitation gagnait. La moitié de la somme totale? Mais qu'est-ce qu'on attendait d'elle? Je n'en sais rien, soupira le vieil homme. L'argent est bien réel, et pour l'instant, aucune des disparues n'est revenue effectuer le moindre retrait. La seule qui ait refait surface est Ornella Jones, que tu as pu voir tout à l'heure. Et elle est tombée du ciel. Tout semble le prouver. Pas d'un avion, comme le prétendra la version officielle destinée aux médias. Non, de beaucoup plus haut. Et pour vous, c'est quoi, beaucoup plus haut? Encore une fois, petite colombe, je n'en sais foutre rien. 60 000 pieds? Un vaisseau spatial? La Lune? Et moi, là-dedans, quel rôle dois-je jouer? Tu vas te rendre chez Ornella. Tu prétendras être sa sœur aînée du Texas. On te fournira tous les documents nécessaires. 3 mois avant sa disparition, elle avait acheté un bungalow dans les collines d'Hollywood. Une de ces merdes excentriques plantées sur pilotis au bord des canyons. Tu vois le genre? Il n'y a que les Américains pour imaginer deux vivre sur des échasses dans une région en proie au tremblement de terre. Peggy se cala au fond de son fauteuil. Elle devinait qu'Evgeny Kontcharov ne lui disait pas toute la vérité. Elle était prête à parier qu'il avait déjà une idée précise de ce qu'elle allait découvrir là-bas. « Cessez de jouer avec moi, siffla-t-elle. Dites-moi ce que vous avez derrière la tête. Vous pensez que les géants coiffés de chapeaux melons vont me tomber dessus ?»« En gros, oui, admit le vieillard. Il faut bien commencer par quelque chose. » En fait, toutes ces filles avaient un point commun. C'était des webgirls. Elles s'exhibaient sur Internet. C'est de toute évidence comme ça qu'on les a sélectionnées. Quelqu'un s'est connecté sur leur site et a décidé qu'elles faisaient l'affaire. Nos techniciens sont en train d'examiner l'ordinateur d'Ornella Jones. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Le relevé des cartes bancaires a permis de dresser une liste de ses clients, des types d'une grande banalité. Aucun ne pourrait se payer le luxe de distribuer des millions de dollars à l'appel. Tu vas te rendre chez elle et fouiller de manière plus approfondie. Interroge sa voisine. Elle s'appelle Michaela Ken, c'est une ancienne star de soap opéra à la retraite. Elle donne aujourd'hui dans les énergies spirites, le New Age, ce genre de truc. Voilà pourquoi les flics n'ont pas jugé son témoignage fiable. Peggy demeura silencieuse, feuilletant les clichés contenus dans le dossier. La fatigue du voyage commençait à se faire sentir. Quand elle releva la tête, elle surprit le regard du Russe fixé sur elle. Il y avait du mépris dans ses yeux. Sans doute estimait-il qu'elle s'était laissée aller. Il n'avait pas tort. « Attends d'être en fauteuil roulant, faillit-elle lui lancer. On verra si tu fais mieux. » Mais elle jugea plus malin de se taire. « Il est tard, décréta Evgeny en se redressant. Allons dormir. Ijasan passera te voir dans la nuit pour procéder aux injections d'usage. Ton organisme devrait réagir très vite. » Il fit l'effort de pousser le fauteuil jusqu'à la chambre qu'on avait préparée pour la jeune femme. Puis il prit congé avec une petite inclinaison du buste. La raideur militaire lui allait bien. En dépit de son âge avancé, il n'était pas dépourvu d'un certain charme. Peggy entra dans la pièce. Exception faite de l'absence de fenêtre, on se serait cru dans un hôtel 4 étoiles. Tout était d'une propreté rigoureuse, sans la moindre note de fantaisie. Elle roula jusqu'au lit et, sans prendre la peine de se déshabiller, s'arracha du fauteuil à la force des bras pour basculer sur le matelas. Elle resta là, déjetée, à fixer le plafond, en attendant que le sommeil vienne la prendre. Elle n'était pas inquiète. Elle savait que cette nuit, elle n'aurait pas besoin d'avoir recours à l'alcool pour dormir. Elle perdit rapidement conscience. Plus tard, vers 2 heures du matin, une ombre se faufila dans sa chambre, une seringue à la main. Peggy lui abandonna son bras sans rechigner. Une fois anesthésiée, on l'emporterait au laboratoire, dans les tréfonds du bâtiment. Là, le véritable traitement commencerait, et demain, elle serait devenue quelqu'un d'autre. En réalité, elle dormit 48 heures d'affilée sous l'effet des drogues. Les nanoparticules injectées dans son organisme délabré se mirent aussitôt à l'œuvre, reconstruisant son corps, l'améliorant, développant ses défenses immunitaires, brûlant ses mauvaises graisses. Quand elle s'éveilla enfin, sa peau était lisse, ses cheveux avaient épaissi. Elle avait perdu 18 kilos et recouvrait l'usage de ses jambes. Titubante et nue, elle clopina jusqu'au miroir de la salle de bain. Le miracle tant espéré fut encore une fois au rendez-vous. Elle avait 20 ans. La fille qui la fixait dans les yeux était celle qui avait longtemps figuré sur son premier permis de conduire. Elle en fut bouleversée. C'était comme si, tout à coup, le temps se repliait sur lui-même, la réexpédiant en arrière, à l'époque où tout semblait encore possible, et la vie éternelle. À ce stade de l'existence où l'on croit que la jeunesse est un compte en banque inépuisable. Elle se détourna, luttant contre une subite envie de pleurer. La pièce était probablement truffée de caméras. Elle ne voulait surtout pas s'offrir en spectacle. « Je les autorise à reluquer mon cul, » se dit-elle, « pas mes larmes. » Chaque mouvement était un émerveillement. Elle ne se rappelait pas avoir jamais été aussi souple. Quand elle se baissa pour prendre ses chaussures, le sang ne lui descendit pas au visage et aucun bourdonnement ne lui emplit les tempes. Mais le plus formidable, c'était encore de marcher. De mettre un pied devant l'autre et de tenir debout sans l'aide de personne. Rien que pour cela, elle aurait vendu son âme au diable. D'ailleurs, n'était-ce pas déjà fait? On avait déposé des vêtements propres sur une chaise. Elle les enfila sans leur prêter attention. Quand elle fut prête, elle sortit dans le couloir. Un jeune homme au crâne rasé, vêtu d'un costume noir, l'y attendait. « Le colonel Kontcharov vous attend, mademoiselle, » dit-il d'une voix sans timbre. Le briefing va commencer dans 5 minutes. « Je vous suis, » soupira Peggy. « J'espère qu'on y servira du café. »